Je suis en compagnie de Corinne Baranger pour la chronique bimensuelle sur le développement durable. Corinne, bonjour.
Bonjour.
Alors Corinne, tu as choisi aujourd'hui de nous parler de l'aménagement de l'espace public, hein, parce qu'on le sait, nos villes, et c'est vrai en particulier pour Toronto, changent très rapidement, on accueille de plus en plus de personnes, et puis ça, mais ça, c'est pas sans effet sur notre espace personnel qui tend à se réduire finalement, on doit le partager avec de plus en plus de monde, et la conséquence, c'est qu'on note une évolution dans l'approche et dans la perception de l'espace, quelle est la part de l'espace public et quelle est celle de l'espace privé de nos jours. Alors c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui, Corinne, mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous définir c'est quoi l'espace public?
Alors, a priori, l'espace public peut être défini par un espace qui est réglementé, on dirait, par une administration, par le gouvernement. Seulement, cette notion a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on peut dire que l'espace public, en fait, s'est élargi à d'autres zones comme des zones privées, par exemple, comme un centre commercial, mais où les plazas à l'intérieur vont être considérés comme des places publiques. Mmh. Alors bien sûr, il va y avoir une réglementation, mais comme à l'extérieur, dans un espace public classique, une réglementation pour la sécurité, pour l'utilisation du lieu. Mais on peut considérer que c'est un espace public aujourd'hui. Vous êtes dans un condo à Toronto, l'espace sur le toit où vous allez partager un barbecue avec des amis peut être considéré comme un espace public, même si c'est un espace public réduit. Donc, cette notion d'espace public, c'est vraiment agrandi. Et là, on parle d'espace. En fait, on a une terminologie qui va parler d'espace semi-public ou semi-privé,
okay,
selon que l'on avance dans l'espace privé. Je pense, par exemple, à ces nouveaux condos où, en fait, ce sont les micro-appartements où vous ne pouvez pratiquement que dormir et vous vivez, en fait, dans des espaces communs dans l'immeuble et vous rejoignez votre appartement que pour dormir ou être un peu tranquille.
Ouais, ben écoutez, moi qui est en résidence universitaire actuellement, je peux vous dire qu'il y a un espace que je partage avec les autres dans la résidence. Alors Corinne, comment l'utilisation de cet espace public a évolué au cours du temps?
Alors ça, c'est une chose assez intéressante. Quand on analyse, je ne vais pas remonter jusqu'à l'Antiquité, mais si on remonte simplement jusqu'au Moyen-Âge, en fait, l'utilisation de cet espace, l'évolution de cet espace, est aussi fonction de l'évolution de l'activité économique et de nos vies sociales, en fait. Au Moyen-Âge, les gens pensaient plus à travailler que loisir, c'était pas quelque chose de connu dans la population, je dirais, moyenne ou pauvre, hein, on remonte à des notions, seuls les riches, en fait, avaient des loisirs. Donc, l'espace public qui était la rue, essentiellement, et quelques places devant les églises ou des bâtiments officiels, où se faisaient des réunions politiques ou autres, cet espace était simplement utilisé pour circuler, transporter des denrées et puis éventuellement donc se déplacer d'un lieu à un autre. Les gens pauvres se déplaçaient essentiellement à pied. Donc et les rues étaient aussi, il faut pas l'oublier, des dépotoirs. Hein. C'était des endroits où on déversait toutes les ordures, où on n'avait pas ces systèmes de collecte. Donc c'était des lieux qui étaient, on voit dans de nombreux, dans la littérature, beaucoup de lieux qui sont décrits comme des lieux insalubres en fait. Hein. L'espace public n'était pas forcément quelque chose où on aimait rester, où on aimait, on aurait aimé passer du temps. Hein, c'était un espace fonctionnel essentiellement. Ouais. Ensuite, en fait, disons qu'il y a une très grosse évolution. Le grand tournant, ça a été le 19e siècle. Et c'est vrai qu'en France en particulier, ça a été le baron Haussmann, hein, qui a complètement révolutionné l'architecture de Paris en créant ces grands boulevards. Et là, on a vu apparaître des allées bordées d'arbres avec des trottoirs, des endroits où les gens pouvaient se promener. Auparavant, je dirais que les personnes qui avaient les moyens d'avoir des loisirs et de se promener étaient les aristocrates, les rois qui avaient des grands jardins. Hein. On connaît tous ces jardins qui existent toujours aujourd'hui. Et donc là, avec Haussmann, on commence je dirais, à mettre à la portée des gens un peu moins riches le l'espace public. On commence à créer des squares, on commence à créer des parcs. Avant, c'était des forêts. On avait des forêts où il y avait quelques sentiers, mais souvent peuplés par les brigands du coin ou assez malfamés en général. Et là, on commence, il y a une espèce de révolution où on commence à prendre conscience que, eh bien, on peut aménager ces espaces pour les rendre agréables. Et là, on commence à voir, en fait, apparaître, donc, dans les toiles, d'ailleurs, ça se voit, c'est particulièrement flagrant si on regarde certaines toiles du 19e siècle, on voit tous ces promeneurs, les femmes avec des ombrelles, etc., qui commencent à parcourir donc les Champs-Élysées ou autres grands boulevards. Mmh. La dernière évolution dans les parcs, c'est bon, donc au 20e siècle, avec là le développement des loisirs qui fait que, eh bien, maintenant, cet espace est, tout le monde s'approprie cet espace, en fait. Et on a vu se développer donc les trottoirs, on a vu se développer ces espaces verts, et c'est maintenant des espaces où on va non seulement se promener, mais vous allez voir nombre de gens qui vont courir, par exemple. On va se donner des rendez-vous sur des squares ou des places. On va voir comment dire toutes sortes d'activités, d'événements, tout ce qui est festival, événements culturels, s'est vraiment développé au cours des 50 dernières années. C'est assez impressionnant. Et donc, cela a généré aussi un besoin d'espace. On le voit particulièrement à Toronto. Cette évolution, hein. Et oui. Cette notion d'aménagement paysager, d'apporter un certain, un certain cachet, non seulement avec la verdure, mais aussi avec l'art. Hein.
En effet. Et puis, j'ai envie de vous demander comment on perçoit l'espace public aujourd'hui et pour l'avenir, parce qu'on en parlait en introduction. On doit accueillir de plus en plus de personnes. Comment on fait pour que le bien vivre ensemble demeure et pour garder notre qualité de vie finalement, puis garder nos espaces publics accueillants?
Alors, il y a eu une évolution dans les années 60. Dans les années 60, où là, l'espace public, en fait, je dirais que le monde s'est approprié l'espace public, mais par le biais de la voiture. La voiture, et c'est assez flagrant, on le voit sur des photos de Toronto, par exemple, où, dans les années 60, vous voyez des images où la voiture, des stationnements, il y en a partout dans la ville. Les stationnements sont en surface et les rues sont relativement larges à Toronto et les rues sont principalement occupées par la voiture. On développe cette espèce de civilisation où tout se fait en voiture. On va faire ses courses en voiture, on crée, c'est l'époque aussi des créations des grands centres commerciaux, on crée donc toutes sortes de structures faites pour la voiture. Et la dernière évolution, c'est une évolution que l'on voit depuis ces 20 dernières années en particulier, où là, petit à petit, le piéton se réapproprie l'espace. C'est-à-dire que on revient à un espace où la personne prend de nouveau de l'importance par rapport à l'outil que peut être une voiture.
Oui, puis il me semble que de nos jours, les automobilistes respectent les piétons hein, sur la voie. On a l'impression que ce respect est bien présent. Les mentalités ont évolué à ce niveau-là, puis les piétons et le transport en commun dominent de plus en plus.
Voilà. Alors, je dirais que ça reste quand même un problème quand on voit le nombre de morts encore de piétons et de cyclistes. Le nouvel élément qui est apparu dans le paysage pour l'occupation de cet espace, c'est le vélo qui est très très nouveau en Amérique du Nord, très présent en Europe du Nord pendant longtemps, mais qui arrive en Amérique du Nord, ce à quoi on n'est pas habitué. Donc aujourd'hui, en fait, doit se partager l'espace, la voiture, le piéton et le vélo. Et on est encore dans cette période d'ajustement. Alors, justement, cette notion de respect On se doit de partager le même espace. Donc, il doit y avoir un respect de l'un à l'autre. On ne pourra jamais éliminer complètement la voiture, à moins de créer un réseau souterrain comme a été créé, par exemple, à Masdar, dont j'ai parlé dans une de mes précédentes chroniques, où là, tout le transport peut se faire en souterrain. On aura besoin des voitures ou des camions pour des livraisons, pour autres. Donc, en fait, le truc, c'est de comprendre qu'il faut se partager l'espace, de rendre cet espace agréable pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est un peu un défi dans beaucoup, surtout pour les grandes villes qui sont complètement congestionnées.
Ben, j'allais vous demander justement en terminant, quels sont les projets, les grands chantiers pour la ville de Toronto? La cohabitation avec les cyclistes qui seraient de plus en plus nombreux, ça en serait un, ça?
Oui, à Toronto, on a vu, je dirais, une évolution dans l'aménagement urbain de ces espaces avec le projet du waterfront, je dirais, l'aménagement du bord de l'eau. Je pense que ça a été un gros tournant pour Toronto, où là, finalement, on a pris conscience que l'on pouvait aménager ces espaces et les rendre agréables comme lieu de promenade. Et on a vu depuis quand même pas mal de projets. Alors, bien sûr, le projet des pistes cyclables, qui avait été surtout lancé par un précédent maire, mais là il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais le problème à Toronto sur le partage de cet espace, c'est que on n'a pas encore décidé. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une période de transition où on s'est trouvé avec des maires qui voulaient remettre la voiture dans la ville. Je pense que la voiture est en train de disparaître des grandes villes. Elle ne disparaîtra pas complètement, comme je l'ai dit, mais on a besoin de diminuer le trafic automobile dans les villes. C'est incontournable. Et d'encourager le transport public. Et pour ça, il faut faire un choix. On peut pas avoir les deux. Parce que tout est une question d'argent aujourd'hui. Et il faut faire un choix. À un moment donné, il faut faire un choix. Et le piéton, rendre la ville agréable. Et cette dernière évolution aussi est due au fait que les gens ont pris conscience que la santé était importante et que avoir une activité physique est important dans le cadre d'une amélioration de la santé. Et moi je circule en vélo à pied et je vois là depuis surtout depuis cette année, l'an dernier un petit peu, je commence à revoir des enfants sur les vélos, des enfants qui marchent. Et ça, c'est assez nouveau, je pense, en Amérique du Nord, parce que ça, c'était quelque chose qui m'avait particulièrement frappée quand je suis arrivée, où les enfants, on les emmenait à l'école en voiture, on les recherchait en voiture, donc les enfants avaient pratiquement plus d'activité physique. Hein. Et là, on revoit des parents avec des enfants sur des vélos ou dans les parcs. Je trouve que à traverser des parcs régulièrement, je vois de plus en plus de monde dans ces parcs. Et ça, c'est, je trouve, une...
C'est encourageant.
C'est très encourageant.
Eh bien, merci Corinne Baranger, très intéressant et surtout merci de nous avoir fait découvrir ce concept d'espace public avec lequel on n'est pas nécessairement familier, mais pourtant c'est une notion qui est centrale pour notre qualité de vie en ville de nos jours. Alors merci Corinne d'avoir été avec nous.
Pas de problème, merci, bonne journée.
Bonne journée à vous.